Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, le sport féminin est-il fait pour les hommes ? Valérie Gauvin jouera-t-elle à la pointe de l'attaque des Bleus face à la Corée du Sud ? Quel sera le schéma tactique adopté par la sélectionneuse Corinne Diacre ? Voilà le genre de questions qui devraient être débattues à la veille du match d'ouverture de la Coupe du Monde féminine de football au Parc des Princes. La compétition a lieu en France, elle débute le 7 juin prochain et va bénéficier d'une médiatisation inédite. Le groupe TF1 va diffuser en clair la moitié des matchs. La visibilité du sport féminin progresse, il représentait 7% du volume des retransmissions sportives en 2012, le double 5 ans plus tard, mais beaucoup reste à faire. Le sport est d'abord un monde d'hommes. Si certaines disciplines suscitent un intérêt quasi identique selon qu'elles sont pratiquées par les garçons ou par des filles, c'est plutôt l'exception, en particulier dans les sports qui requièrent d'importantes capacités physiques. Car les femmes sont soumises à des injonctions contradictoires, elles doivent être performantes pour être crédibles, sans pour autant renoncer à leur féminité. Compétitive, oui, mais agréable à regarder, cet impératif n'appartient pas qu'au passé, comme a pu par exemple le constater Serena Williams lors du dernier Roland-Garros. La tenniswoman s'est fait taper sur les doigts pour avoir délaissé la traditionnelle jupette au profit d'une combinaison intégrale. Alors le sport féminin est-il fait pour les hommes ? C'est la discussion du soir en compagnie de trois invités. Mélissa Plaza, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes une ancienne internationale de football, joueuse professionnelle. Vous avez notamment évolué au sein de l'Olympique lyonnais. Je cite ce club qui est le plus titré du sport collectif français. Vous êtes par ailleurs, et vous l'avez fait en même temps que vous faisiez du football, auteur d'une thèse sur les stéréotypes de genre dans le sport. Et vous racontez à la fois votre parcours sportif, votre parcours personnel et votre parcours de thésarde dans « Pas pour les filles ». C'est une question que vous posez. C'est un livre qui est publié chez Robert Laffont. Pour discuter avec vous, Jérôme Cazadieu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de la rédaction du journal L'Équipe, principal quotidien sportif français, le groupe L'Équipe qui regroupe également France Football.
Tout à fait.
Évidemment de foot.
Un site internet, une application et une chaîne.
Voilà, la chaîne L'Équipe 21. C'est sur le 21e canal. L'Équipe qui aujourd'hui fait sa une sur le départ d'Antoine Griezmann au FC Barcelone. Et puis troisième invité, Catherine Louveau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, professeur émérite à l'Université Paris-Sud. Vous avez signé de nombreux écrits sur la place des femmes dans le sport. Je ne sais pas s'il y en a un, alors on les a recensés sur Internet, mais est-ce qu'il y en a un que vous voulez citer en particulier ?
Il y a le livre historique qui fait un grand bilan sur l'histoire de l'accès des femmes aux pratiques sportives, la distribution des femmes et des hommes dans les sports, et des garçons et des filles, c'est sport, école, société, la différence des sexes, avec Annick Davis, voilà.
Alors on ne va pas vraiment faire de l'histoire pour recommencer, mais on va quand même remonter quelques jours en arrière. Nous sommes le 2 mai 2019, petite révolution dans le monde du sport français. La liste des 23 joueuses retenues pour le mondial est annoncée en direct au JT de 20h sur TF1.
Gardienne de but, Sarah Boisdi, Solène Durand, Pauline Perromanien. Défenseur, Julie Debever, Sakina Karchaoui, Amel Majri, Gridge Mbok, Eve Périssé, Wendy Renard. Marion Torrent, Aïssatou Tounkara.
Voilà, les autres ne nous en voudront pas, on ne va pas faire la liste complète. Si on veut savoir quelles sont ces 23 joueuses sélectionnées, il suffit d'aller sur le site justement du journal L'Équipe, Jérôme Cazadieu. Mélissa Plaza, le fait que la liste des 23 soit annoncée dans le JT de 20h de TF1, qui est un énorme carrefour d'audience, et que ce soit fait donc pour cette équipe de France de football féminine, est-ce que pour vous c'est un événement? C'est quelque chose c'est quelque chose d'inédit, mais est-ce que c'est quelque chose qui est véritablement peut-être même une petite révolution?
Oui, c'est une révolution, clairement. Si vous m'aviez dit ça il y a 10 ans, je vous aurais pas cru. Donc c'est un grand pas en avant, aussi parce que TF1 a acheté les droits et va diffuser certains matchs de la Coupe du Monde. Donc je crois que ça va être un bel événement et qu'on est en train de mettre beaucoup de moyens, en tout cas beaucoup plus qu'on avait pu le faire auparavant. Et c'est une très bonne chose pour toutes ces joueuses qui le méritent amplement.
Donc ils ont intérêt de toute manière à promouvoir cet événement, puisqu'effectivement ils ont investi, mais pour autant, c'est vrai que c'est quelque chose à quoi on n'a pas l'habitude. Pas davantage d'ailleurs que de retrouver le lendemain en une de l'équipe, justement. Alors pas les 23, mais un certain nombre de ces joueuses. 23 pour un rêve, c'était le titre de l'équipe le 3 mai, suite à l'annonce de cette sélection, Jérôme Cazadieu. C'est un choix qui a été évident du côté du journal ?
Oui, c'était un choix qui était évident pour nous. Je dirais que sur le foot féminin, on monte en puissance depuis, je dirais, quelques années. Si on reprend l'équipe de France et les Coupes du Monde, je me suis amusé à regarder le nombre de reporters que nous avions envoyés à l'époque. En 2011, on envoie deux reporters, un reporter pour l'équipe et un reporter pour France Football, qui vont faire l'intégralité de la compétition qui était en Allemagne. Voilà. Et a priori, il n'y avait que trois journalistes qui ont fait l'intégralité de la compétition. Il y avait aussi l'AFP qui était présente. Et les autres médias n'étaient pas présents. Ils étaient arrivés bien plus tard quand les joueuses de l'équipe de France disputaient des matchs à élimination directe. Voilà. Et en 2015, on a triplé nos effectifs. Voilà. On a vu davantage, je dirais, de suivi de la part des autres médias. Et là, pour cette Coupe du Monde qui est en France, qui est un événement extrêmement important dans un contexte, il faut le rappeler, hein, les Français, les hommes sont champions du monde en titre. On va avoir presque un traitement identique à celui des hommes pour une compétition internationale, puisque nous allons avoir 17 journalistes qui vont être dédiés sur cette Coupe du Monde et une dizaine qui vont participer, comment dire, au suivi sur certains matchs où ils assisteront, à des rencontres.
Ce qui en matière de football féminin va peut-être permettre à la France de rattraper un peu son retard par rapport à d'autres nations. Vous racontez dans votre livre, Mélissa Plaza, votre expérience. Alors, c'est quand vous étiez au niveau universitaire, mais vous participez justement à un mondial au Chili, hein, si ma mémoire est bonne, ou alors là, vous êtes très surprise par l'accueil qui vous est fait, c'est-à-dire vous avez l'impression que d'évoluer comme si c'était dans une équipe masculine, parce qu'on vous considère l'égal justement de vos homologues masculins à l'époque, dans ce pays en particulier.
Oui, alors c'était avant l'université, donc c'était la première Coupe du Monde que je faisais pour ma part avec l'équipe de France, et c'était au Chili, un pays qui n'avait pas accueilli d'événements de cette ampleur depuis longtemps, et donc les gens étaient extrêmement impatients de nous recevoir, et on avait été accueillis comme des reines, effectivement, à l'hôtel, avec des gens qui nous attendaient pour des autographes, des photos, et c'était vraiment... très touchant d'une part, et puis c'était la reconnaissance qu'on espérait depuis longtemps et qu'on n'avait pas forcément en France. Et
on verra peut-être un peu plus tard dans l'émission que cet accueil de Rennes, c'est pas quelque chose que vous avez toujours rencontré dans les clubs dans lesquels vous avez évolué. Catherine Louveau, cette médiatisation du football féminin qui est importante. On achète des droits, on promeut. C'est vrai que ça se passe en France. C'est vrai aussi qu'il y a des performances qui sont réalisées par l'équipe de France qui font que elles sont beaucoup plus populaires. Est-ce que c'est quelque chose qui est général au sport féminin, ou bien est-ce qu'on peut parler d'une forme d'exception, en tout cas peut-être s'agissant des sports collectifs féminins?
Exception dans quel sens? Vous voulez dire sur le...
D'une médiatisation plus importante qu'elle ne l'était avant. Est-ce que c'est tout le sport féminin qui bénéficie de cette médiatisation plus importante?
Oui, pas du tout. Vous avez cité un chiffre tout à l'heure. On est passé de 7 à 17%, 16-17% aujourd'hui. On dit que ça double. Moi, j'aurais préféré 25-50, vous voyez. Et donc, ça double. Mais enfin, pendant plus de 80% du temps, ce sont encore des hommes que l'on voit. Du temps médiatique. Donc, on est très, très loin du compte.
Enfin, 5 ans, c'est quand même assez spectaculaire. C'est-à-dire que ça ne pouvait pas passer à 50%
en aussi peu de temps. Jérôme Cazadieu a parlé de 2011. C'est justement très intéressant parce qu'en 2011, c'est une association féministe, Femmes Solidaires, qui a fait une campagne pas de filles hors jeu. C'est pas du tout le monde du sport ni le monde du football. D'ailleurs, malheureusement, je le regrette beaucoup, qui a fait pour faire en sorte qu'elle soit médiatisée, l'équipe de France, les mondiaux féminins, enfin les mondiaux des filles, je veux pas dire féminins, des filles de football, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Vous disiez qu'il y avait très peu de journalistes. Donc c'est vrai qu'en peu de temps, le saut est considérable et il est très important. Cela dit, ça fait quand même 50 ans qu'elles sont à la Fédération française de football, les Françaises, qu'elles font du football. Donc, on ne peut pas crier, être très admiratif, ce n'est que normal. C'est un événement dans lequel... alors évidemment, il a toujours fallu qu'elles gagnent. Hein. On a toujours attendu qu'elles gagnent. J'avais déjà eu des discussions avec le journal L'Équipe.
Ça, c'est pour un peu pour toutes les équipes, qu'elles soient féminines ou masculines. C'est-à-dire, quand une équipe gagne, c'est un vrai avantage.
Non, les footballeurs de seconde division, etc., font souvent la une. Attendez, on n'attend pas qu'ils gagnent pour faire la une. Justement, donc là, on voit bien qu'il y a un événement effectivement d'importance et on peut que s'en satisfaire. Après, sur les autres sports, eh bien, comme je vous disais, de 80% du temps, alors après, si on a le temps, ça serait bien de parler d'un décret qui oblige, ou j'en parle maintenant.
Décret, je pense que c'est le décret de 2004 qui oblige à retransmettre un certain nombre de compétitions pour qu'elles soient accessibles à l'ensemble des spectateurs.
Oui.
Et il y a des demandes de modification pour qu'elles soient, ces retransmissions, un peu plus paritaires, c'est ça ?
C'est en ce moment, voilà, je voulais le dire, parce que sur les quelques 21 événements qui doivent être retransmis, sportifs, en fait, il n'y en avait que 6 qui désignaient donc des compétitions de femmes. Donc là, il y a une discrimination qui n'est pas acceptable, et donc il y a un sénateur qui a travaillé là-dessus. Il y a une consultation publique en ce moment sur le site du ministère de la Culture pour le transformer et ajouter masculin, féminin, les masculins, les féminines, dans l'ensemble des compétitions retransmises. Donc c'était quand même un manque, une invisibilité des filles, en fait.
C'est-à-dire si ce sujet est d'actualité. Jérôme Cazadieu, quand on est une sportive de haut niveau, ou quand on fait partie d'une discipline féminine, il vaut mieux gagner plutôt que perdre si on veut avoir des chances que sa discipline soit médiatisée.
Bah, moi, je dirais que ça vaut pour les hommes comme pour les femmes. Je dirais que ça vaut encore plus aujourd'hui entre les disciplines, puisque le foot est un sport plus porteur, par exemple, que des disciplines qui sont moins médiatisées, l'escrime, par exemple, des sports olympiques. Donc, évidemment, je pense qu'aujourd'hui, si l'équipe de France féminine fait l'ouverture du journal de 20h de TF1 à la une de l'équipe, c'est parce qu'elle a des résultats depuis un certain nombre d'années. Évidemment, il y a la compétition à avoir lieu en France. On a un club qui est Lyon, qui va disputer samedi la finale de la Ligue des Champions, qui l'a gagné déjà à plusieurs reprises, qui est recordman en la matière. Donc on a bien sûr toute une histoire, tout un storytelling qui s'est écrit ces dernières années et qui fait qu'aujourd'hui on s'intéresse particulièrement aux footballeuses françaises. Après, juste pour ajouter, je dirais que le sport féminin et la performance, ce sont deux éléments qui sont extrêmement importants en termes de médiatisation. Alors, je suis pas en train de dire que la médiatisation était suffisante, mais je dirais que c'était évidemment un amplificateur. Le tennis a été extrêmement fort avec ça. On a eu, Amélie Mauresmo, qui a été, par ses performances extrêmement médiatisées. Vous avez eu, par exemple, Marie-Josée Pérec, qui a fait, la légende de l'athlétisme mondial. Voilà. Donc, c'est vrai que les performances sont évidemment liées, à la médiatisation, et peut-être un peu trop pour les femmes versus les hommes.
Sachant que ce sont des performances qui sont, en tout cas pour l'instant, manifestement beaucoup moins commentées qu'elles ne le sont quand il s'agit des hommes, j'ai quand même l'impression, Mélissa Plaza, mais vous allez peut-être me contredire, qu'il y a quand même encore un gros phénomène de curiosité, y compris à l'égard du football féminin, qui est de plus en plus médiatisé. Mais j'évoquais en début d'émission schéma tactique, par exemple, qui allait être utilisé. Est-ce que traiter les footballeuses féminines de la même manière que les garçons, ça ne serait pas aussi par s'engueuler de la même manière et par contester les choix et par dire que, par exemple, certaines joueuses jouent mal et d'autres sont plutôt performantes?
Oui, tout à fait, vous avez raison. Je pense que la première des choses pour médiatiser les footballeuses de façon appropriée, ce serait de se centrer uniquement sur leur performance sur le terrain, ce qui n'est clairement pas le cas actuellement. On entend régulièrement encore des remarques sexistes, voire misogynes. D'ailleurs, vous parlez de foot féminin et de Coupe du Monde féminine. Pour moi, c'est déjà un problème, en fait, que d'aborder cette question de cette façon-là. D'une part, parce que quand on dit football féminin, on sous-entend que finalement c'est une autre discipline, un autre football, parce qu'on dit jamais football masculin, comme si c'était la norme, le dogme.
Coupe du monde féminine, je précise, c'est l'appellation officielle retenue par la FIFA, par la Fédération internationale du football.
Tout à fait. Et puis j'y vois là deux problèmes. D'une part, effectivement, c'est le même sport, donc on ne devrait pas avoir besoin de préciser. Et la deuxième chose, c'est que quand on dit football féminin, ça sous-entend encore une fois l'injonction à la féminité qui est faite à nos sportifs de manière générale et particulièrement à nos footballeuses. Et vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai une amie qui me disait, mais je trouve pas ça un peu bizarre que toutes les filles de l'équipe de France soient extrêmement girly. Enfin, en tout cas, moi, je me reconnais pas dans cette équipe de France. Et c'est vrai, il n'y a pas de critères officiellement pour rentrer dans cette équipe de France, mais c'est vrai qu'elles sont toutes hyper féminisées parce que on sait que c'est un peu la quote-part à la médiatisation, quoi. C'est un peu le droit d'entrée déjà dans le milieu, et puis c'est aussi une façon de pouvoir être mise en avant certaines joueuses ont tardé à être médiatisées alors qu'elles avaient un talent fou. Je pense notamment à Eugénie Le Sommer. Et c'est quelque chose qui doit absolument évoluer si on veut aller vers un peu plus de reconnaissance et de médiatisation.
Sur cette injonction à la féminité, Catherine Louveau, vous avez donné une interview à Télérama, c'était en septembre dernier, qui a été consacrée justement à ce sujet, où vous releviez ceci. Dans les années 60-70, les sportives avaient les cheveux courts parce que c'était plus pratique dans les vestiaires. Mais depuis quelques années, elles ont toutes les cheveux longs, elles se maquillent.
Ben oui. Sur le football, d'ailleurs, tout à fait. Hein, y a le terme injonction est vraiment le terme qui convient. Et donc, d'injonction à travailler les rituels de féminité, donc la parure, les signes de parure, d'apparence, etc. Moi, je remarque que depuis... D'abord, elles ont toutes les cheveux longs maintenant. Alors, il y a un effet de génération, c'est vrai. On m'a dit que l'équipe de France à Rio, elles étaient obligées d'avoir les cheveux longs, les footballeuses. Je parle des footballeuses. Et on voit bien que de plus en plus de sportives ont les cheveux longs. Et donc, il y a quelque chose qui a à voir là. Et alors, en plus, quand on regarde, par exemple, sur les terrains d'athlétisme, là, les courses, etc., elles sont maquillées, elles ont du vernis à ongles, elles ont des bijoux, des boucles d'oreilles, etc. Enfin, tout un ensemble de choses pas forcément indispensables pour gagner, hein, voilà, et qui sont... effectivement une espèce de soumission à ces injonctions de féminité, parce que, mais ça dure depuis 150 ans de sport moderne, les sportives sont-elles féminines? Et beaucoup répondent non, c'est-à-dire sont-elles conformes aux normes dominantes de la féminité, celles de la presse féminine, du mannequinat, de la danseuse, de la...
Ben oui, ben mais non, c'est pourquoi elle... C'est pour plaire aux hommes? C'est finalement la question qu'on pose ce soir, le sport féminin est-il fait pour les hommes? Est-ce que, en tout cas... Une de ces injonctions, c'est de se dire, voilà, c'est pour que le sport soit médiatisé, il faut que les spectateurs, hommes, aient envie de le regarder. Pour qu'ils aient envie de le regarder, il faut que les filles soient agréables à être regardées.
Sport féminin, il faudrait qu'on en reparle, parce que je partage totalement, ça n'existe pas, le sport féminin, le football
féminin,
etc.
Oui, mais alors pour l'émission de ce soir, ça va quand même nous rendre service.
Oui, mais non, mais il faut expliquer pourquoi on dit que ça n'existe pas, quoi, voilà. Mais sinon, à un moment donné, quand même, on a eu beaucoup de journalistes à une époque, ça s'est beaucoup tassé, à part Candeloro, qu'il faut nommer, quoi. Ça s'est beaucoup tassé, c'est-à-dire qu'il y avait sur
qui
les sportives...
Qui était un peu macho, vous voulez dire ?
Oui, non, mais c'est pas ça. Il y avait beaucoup de commentaires sur l'apparence des sportives. Je me souviens d'un journaliste sportif disant à une haltérophile « Oui, vous êtes jolie pour l'instant, mais quand vous allez continuer l'entraînement de les épaules, etc., ça va devenir... » Voilà, donc il avait... Donc les remarques, Jeannie Longo, les mollets poilus, Brigitte Dédier en a parlé pour le judo, qu'elle en avait marre d'entendre dire que les pratiquantes du judo étaient des filles à mollets poilus. Je travaillais à l'INSEP à l'époque, elle le disait. Donc il y a eu... Et c'est une condition à la médiatisation en fait des sportives, c'est-à-dire d'être sportive peut-être et performante, mais féminine, conforme à des canons de beauté.
Et puisque vous évoquez Jeannie Longo, je voudrais juste avant de poursuivre la conversation avec Jérôme Cazadieu et Mélissa Plaza, vous faire entendre un extrait. Alors à l'Équipe, qui est le journal du Tour de France, vous devez vous en souvenir, c'est en 1987, il y a le Tour de France masculin, le Tour de France féminin. Et il y a une discussion, un mini-débat, enfin qui ressemble plutôt à un soliloque. C'est Marc Madiot qui s'adresse à Jeannie Longo.
Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins. Voir une femme danser, pour moi, c'est très joli. Voir une femme jouer au football...
C'est charmant.
Non, mais c'est vrai, je le reconnais. Voir une femme danser, c'est très joli. Voir une femme jouer au football, c'est moche, et je le dis.
Tiens, mais pourquoi ?
Voir une femme sur un vélo, c'est moche. C'est mon opinion, ça n'engage que moi.
Bon, ça, c'était il y a une trentaine d'années, Jérôme Cazadieu, on en est toujours là. Je reviens vers vous après, Catherine Louveau.
Voilà.
Non, je pense qu'on n'en est plus là. Voilà, il y a des questions de génération. Moi, je vais dire que je me permets juste de donner ma vision. Voilà, moi, j'ai 41 ans. J'ai été reporter pendant de longues années. J'ai couvert un certain nombre de sports. Je dirais que moi, je vois bien que le sport, on va dire qu'il y avait un maillage assez fort entre les journalistes, parfois les gens qui composaient le sport. Et je dirais qu'il y a eu une génération... aussi bien chez les journalistes par exemple qui étaient à l'Équipe ou chez certains sportifs qui ont tenu le haut du pavé, qui est en train de partir et qui était très machiste, y compris au sein de la rédaction avec les journalistes femmes. Voilà, donc on va pas nier. Maintenant aujourd'hui, je pense que je ne dis pas que la situation des sportives aujourd'hui elle est simple, hein, je dis pas ça du tout, mais je pense qu'il y a quand même des avancées dans la société qui existent également dans le sport, même si le sport reste malheureusement un univers extrêmement conservateur. C'est sûrement peut-être un des univers les plus conservateurs qui soit. On l'a vu par exemple il y a une dizaine de jours sur la une qu'on a fait sur le magazine. On a fait une sur le magazine parce qu'il y a eu beaucoup de phénomènes d'homophobie dans le sport. On a fait une avec une photo de deux joueurs de waterpolo qui vont s'embrasser au moment où ils sont en train de jouer. Et derrière, on a vu toutes les réactions que ça générait. Et si on ramène ça globalement à la perception, je dirais, traditionnelle que peut avoir, le fan de sport, parfois nos lecteurs, hein, nos téléspectateurs, nos internautes. Oui, on a encore des lecteurs ou des consommateurs, on va dire, qui sont assez rétrogrades sur ce plan-là. Mais ce sont ces mêmes personnes qui, dès qu'une sportive se met à gagner, voilà, on parle souvent des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, quand on gagne une médaille d'or, quand c'est une sportive qui gagne, une Française qui gagne des médailles d'or, ils sont très contents. Donc il y a les injonctions contradictoires que vous évoquiez tout à l'heure et qui se matérialisent très fortement aussi dans le sport.
Illustration de ce conservatisme, c'est une expérience vécue que vous racontez dans votre livre Mélissa Plaza. Ça se passe à Montpellier et à un moment donné, on vous propose avec d'autres joueuses de participer à une campagne d'affichage pour promouvoir le club. Et vous écrivez ceci, les slogans ne laissent place à aucune ambiguïté. La chaussette remontée d'Oda, alors c'est une de vos coéquipières, prend tout son sens avec la mention. Donc ça, c'est ce qui est affiché sous la photo. Samedi soir, prendre du plaisir. La photo d'Andrea illustre au sens propre comme figuré l'expression mouiller le maillot, hein, puisqu'on lui a mis de l'eau sur son maillot. Et pour ma part, donc pour vous, Mélissa Plaza, le slogan est sans appel, samedi soir, marqué à la culotte. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le sport, ce sont des expressions qui sont utilisées dans le commentaire sportif, mais on voit bien que ça joue aussi sur une ambiguïté et à quel point aussi peut-être les filles sont considérées comme des faire-valoir, c'est-à-dire pour promouvoir l'image d'un club sans forcément qu'on s'y intéresse beaucoup plus.
Oui, c'était exactement ça. Et au-delà de ça, c'était on nous objectivait totalement. C'est-à-dire que on n'était pas du tout prise de plein pied. Moi, j'avais que le buste en fait. Mais souvent, les femmes, qu'elles soient sportives ou non, sont résumées à une paire de jambes, à une paire de seins, à une paire de fesses, comme un objet en fait en réalité. Et au-delà de ça, c'est que effectivement, on était des faire-valoir dans ce cas précis, puisque c'était pour la campagne d'abonnement à la Mausson, Mausson étant le stade que nous n'utilisions pas du tout à l'époque puisqu'on jouait à Gramont dans des stades pourris et sans tribune. Effectivement, on a vraiment servi de faire valoir. Et par ailleurs, vous pouvez constater la symétrie qu'il y a pu avoir entre les photos qui ont été prises pour les garçons avec Joris Marvaux et Olivier Giroud, qui n'étaient elles pas du tout sexistes et qui n'avaient rien d'humiliant. Donc effectivement, pour moi, ça a été une très grande anecdote. Je le raconte souvent parce que je suis pas née féministe, je le suis devenue, notamment en commettant des erreurs comme celle-ci. Et cette affiche, aujourd'hui, j'en garde qu'un souvenir amer et un peu une humiliation puisque j'ai été affichée dans tous les abribus de la ville de Montpellier et puis par ailleurs dans la cafétéria de ma fac où j'ai fait ma thèse sur les stéréotypes de genre en contexte sportif, donc c'est un peu un comble.
Catherine Nouveau.
Oui, je voulais terminer la phrase de Jeannie Longo tout à l'heure à Marc Madio. Sa réponse est très importante parce qu'il dit vous êtes moche sur un vélo, football, etc. Et elle répond, et avec un balai, est-ce que je suis jolie? Puisqu'elle était renvoyée du côté du féminin, elle répond ça, et je trouve que c'est une très très bonne réponse. Sur cette question, il y a quand même, mes étudiants sont des étudiants en sciences du sport et qui sont, il y a un peu de tout, hein, qui sont pas forcément très progressistes non plus. Et actuellement, là, par exemple, dernièrement, on m'a rapporté, mais des collègues l'ont observé sur des travaux de recherche, etc., dans les cours d'éducation physique et sportive à l'école, au collège, au lycée. Si jamais une fille, donc quand ils pratiquent par exemple du judo, de la lutte, etc., en mixité, si jamais une fille met au sol un garçon parce qu'elle est plus forte, voilà, techniquement, et bien là, c'est carrément les menaces de mort, la grande violence, etc. Enfin bon, donc ça passe pas pour quelque chose de normal, techniquement. Ensuite, y a une étudiante qui s'est pris un coup de pied sur un terrain de rugby mixte, comme ça, et les étudiants apprennent ensemble à jouer. Elle s'est pris un coup de pied, hospitalisation, arrêt de travail, etc. Très grave, quoi. Bon, voilà. Ensuite, vous allez sur le site, ça diminue, non. Vous allez sur le Tumble, paye ton sport, comme il y a paye ton taf, paye, etc. On voit à quel point les remarques sexistes, voire les menaces, existent sur les filles de tous âges, les femmes. Et donc, une fille arbitre, par exemple, enfin une jeune femme arbitre d'un match masculin qui s'est entendue dire parce qu'un carton jaune n'a pas plu à un joueur, gare à ton short sur le parking. c'est presque une menace, enfin, vous voyez, d'agression sexuelle, quoi. Et quand on lit tout ça, on est quand même assez terrifié. Donc, je suis pas sûre que ça aille vraiment, vraiment mieux. C'est peut-être un peu moins. Il y a plus de prise de conscience. Mais par exemple, MeToo n'a rien déclenché dans le monde du sport sur toutes ces agressions, ces violences, ce sexisme dit ordinaire, ou bien ces violences et ces agressions sexuelles qui n'ont pas lieu qu'aux États-Unis.
Jérôme Cazadieu ?
Moi, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Évidemment qu'aujourd'hui, dans le sport, je dirais, de haut niveau, avec voilà des sportifs ou des sportives qui travaillent, je dirais, 10 heures, 12 heures par semaine pour vraiment améliorer leur performance, oui, elles sont dans un univers où les codes sont très masculins. Évidemment. Moi, nous avions fait une enquête sur les violences sexuelles dans le sport. Voilà, elle touchait très fortement les femmes, elle touchait aussi des hommes. Hein. Faut pas l'oublier également. Mais il y a tout un univers avec des codes qui sont des codes très virils, très masculins, etc. Et évidemment que ça existe. Et je vous rejoins sur notamment comment dire la question des arbitres féminins. Toutes les femmes arbitres. On a une Madame Frappe qui a arbitré un match de Ligue 1 il n'y a pas très longtemps, on a vu quand même un certain lot de commentaires sexistes, voilà, et je suis pas complètement d'accord pour dire qu'aujourd'hui au niveau des journalistes et des médias toutes ces remarques ont disparu. J'en ai entendu il n'y a pas très longtemps sur une chaîne et une émission de télé de foot assez connue à propos de la qualité des gardiennes en foot. Mais si on regarde quand même aussi un peu le sport tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, voilà, il suffit d'aller, comment dire, là on est à Paris, mais si on va en banlieue, dans les clubs qui sont en Paris ou autour de Paris, vous avez un nombre très important aujourd'hui d'équipes mixtes, par exemple, y compris, comment dire, sur des sports qui sont des sports, où il y a une vraie virilité. Je parle en rugby, par exemple, vous avez des équipes mixtes chez les hommes. J'imagine que vous avez joué peut-être dans des équipes mixtes étant plus jeune. Voilà. Je trouve qu'il y a quand même une forme de culture qui s'installe au travers de cette pratique-là, et je pense qu'il faut faire une distinction entre un univers de la compétition qui est sûrement aujourd'hui encadré un peu trop par une sorte de dogme, parfois machiste, et on va dire la pratique qui aujourd'hui, je pense, avance quand même par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a une vingtaine d'années.
Justement, alors. Jusqu'à quand, Mélissa Plaza, est-ce que vous avez joué différemment avec des garçons et avec des filles? Et pour quelles raisons est-ce qu'à un moment donné, vous avez dû, alors je ne sais pas si c'est par choix ou par contrainte,
c'est obligatoire,
aller vers une équipe féminine? Ah, c'est obligatoire à 14 ans, d'accord.
Ouais. Voilà, j'ai démarré avec les filles, donc du coup, j'ai pas eu à choisir.
Vous démarrez en club, parce que sinon, oui. Jouez au football, quand vous êtes petite, vous jouez avec les garçons.
Moi, je peux vous dire que encore aujourd'hui.
Et puis, vous aimez bien leur lancer des défis, en plus, hein, quand ils remettent en cause vos compétences techniques et physiques.
Bien sûr. Je prends un vrai plaisir à relever les défis que certains me lancent alors qu'ils n'ont pas joué plus haut que le niveau régional. Donc, bien entendu, je leur donne rendez-vous quelques minutes plus tard au Five et puis ça se règle sur le terrain. Mais comme toujours,
Five, ça veut dire quoi?
Le soccer, où on joue en 5 contre 5 sur un petit terrain et le ballon sort jamais. Enfin, c'est vraiment... là, on voit d'une part les qualités techniques, mais aussi les qualités athlétiques, c'est-à-dire sur la durée, sur une heure de jeu. Voilà, on est vraiment lessivé au sortir du terrain. Donc, mais voilà, comme toujours, il faut prouver deux fois plus pour avoir un petit peu de respect et de reconnaissance.
Et pouvoir jouer en équipe mixte plus longtemps, voire même au niveau professionnel, c'est quelque chose
problème.
En tout cas que vous regrettez, que vous auriez aimé faire?
Alors j'aurais aimé jouer avec les garçons, parce qu'à l'époque effectivement on démarrait tout juste chez les filles, donc on avait très peu d'encadrement, le niveau était assez faible, donc j'aurais probablement plus progressé si j'avais joué avec les garçons. Maintenant voilà, ça s'est fait comme ça, et moi je crois que la mixité est tout à fait envisageable, y compris après 14 ans. La preuve en est, c'est que de temps en temps, je vais jouer au foot avec des hommes et que ça se passe très bien. C'est simplement une question de bon sens, en fait. C'est-à-dire que quand je suis sur le terrain, je m'adapte au gabarit qui est en face de moi, indifféremment du sexe. Et je vais pas mettre le pied de la même manière si j'ai un petit gabarit en face de moi plutôt qu'un grand gabarit. Et pour moi, c'est avant tout ça. C'est-à-dire une question de bon sens et surtout d'éducation, en fait.
Catherine Louveau, et je vous pose la même question, Jérôme Cazadieu, puis aussi à vous, Mélissa Plaza. Est-ce que vous considérez qu'il y a des sports qui, pratiqués à haut niveau, ne pourraient pas supporter la mixité? Catherine Louveau.
Ah mais non, mais la question ne se pose pas comme ça. Le monde sportif est séparé.
Bah oui, donc c'est bien pour ça que je
vous
la pose.
Oui, mais non, mais ça c'est l'institution, c'est l'histoire.
Oui, mais imaginons que le monde sportif veuille.
Ah non, imaginons la révolution, vous voulez dire.
Eh bah, pourquoi pas.
Alors imaginons la révolution. Eh bah, ouais. Ça se fait au Guess Game, par exemple, ou dans des tas d'autres circonstances. C'est-à-dire à partir du moment où on va pas être dans le décompte, dans la performance, dans le chronométrage, le décompte, etc., etc. Les femmes et les hommes peuvent jouer ensemble. Il y a aucun problème, comme je vous le disais dans les cours d'éducation.
Mais moi, je parle du haut niveau et de la compétition. Prenons par exemple l'athlétisme. Si on parle du 100 mètres, est-ce que avoir des 100 mètres mixtes, c'est quelque chose qui paraît aberrant? C'est-à-dire, où est-ce qu'on met la limite entre
Vous posez une question à laquelle vous ne croyez pas, parce que je pense, puisque on sait
mais
bien que les performances...
Depuis le début, il ne faut pas parler de sport féminin. Alors
non,
j'essaie justement de
parce qu'il n'est pas féminin, le sport. Il n'y a pas de football féminin. Il y a du football pratiqué par des femmes et par des hommes, mais les techniques et les compétences n'ont pas de sexe. Voilà, j'insiste beaucoup là-dessus. Donc le foot, c'est le foot. Et après, il y a des femmes et des hommes qui jouent au foot. Voilà. Donc, après, qu'il y ait des différences dans les performances, c'est attesté. Mais ce qui est attesté aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'écart, par exemple, sur le 100 mètres, le 800 mètres, enfin, sur un certain nombre en natation, etc., là où ça a pu être mesuré pendant un siècle, cet écart s'est considérablement réduit, ce qui montre bien que les questions qui ont l'air biologiques, physiologiques, anatomiques, etc., etc., ne le sont pas, ou en tout cas, autant que le biologique est très alimenté par le social, les modes d'alimentation, l'hygiène de vie, qui a fait que les femmes ont tendance à rattraper les hommes. Alors la grande question qui est beaucoup posée par beaucoup de journalistes qui fantasment beaucoup là-dessus, est-ce qu'elles vont dépasser les hommes un jour? On voit cette question partout.
Vous croyez que ça leur fait peur?
Oui. Bien sûr, je pense que ça fait peur aux hommes qu'un jour des femmes les dépassent. Voir le match Billie Jean King. Avec voilà celui qui lui avait lancé le défi, c'est elle qui a lancé le défi et elle a gagné d'ailleurs.
Le match de Billie Jean King, c'était face, oui bien sûr, j'essaie de retrouver le nom du
Bobby Riggs. Oui, moi non plus, je ne l'ai pas.
Bobby Riggs.
Voilà. Qui a fait l'objet d'un film il y a pas très longtemps. Voilà. Mélissa Plaza. Voilà.
Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec vous, Catherine, évidemment. Mais la question que vous posez ici, parce qu'on est parti sur une bicatégorisation, donc avec des femmes et des hommes, aujourd'hui on sait quand même que la façon dont on détermine le sexe biologique n'est pas aussi claire que ça, c'est pas simplement dichotomiser les choses. La preuve en est, c'est que Caster Semenya vient un peu tout chambouler avec d'une part ses chromosomes XXY et d'autre part son taux de testostérone élevé. Ça pose juste la question de finalement, est-ce qu'on pourrait pas faire plus de catégories? Donc vous parliez de mixité, mais est-ce qu'on pourrait pas envisager beaucoup plus de catégories que simplement femmes et hommes?
Alors Caster Semenya, je suis pas sûr que tout le monde la connaisse, c'est une athlète sud-africaine. Double championne olympique, elle a remporté un titre aux Jeux de Rio, c'était en 2016 sur le 800 mètres. C'est une athlète qu'on appelle athlète hyperandrogène, c'est-à-dire elle a un taux de testostérone qui est important, qui, selon la Fédération internationale d'athlétisme, fausse l'équité avec les autres compétiteurs. Donc, il l'oblige à prendre des médicaments pour faire baisser son taux de testostérone. Oui. Elle a fait un recours devant le tribunal arbitral du sport de Lausanne. Son recours a été rejeté. La Fédération d'athlétisme, pardonnez-moi, c'est un peu long, mais juste pour expliquer, sud-africaine, a fait un autre recours. On en est là aujourd'hui. C'est un vieux dossier, Jérôme Cazadieu. Mais en tout cas, c'est un dossier, effectivement, qui remet en cause, en tout cas qui oblige à repenser cette catégorisation entre hommes et femmes. Et cette Caster Semenya, alors elle est à la fois victime et en même temps un petit peu, comment dire, le symbole de cette remise en cause.
Tout à fait. Alors après, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il faut savoir que les sportifs qui se sont plaints de Caster Semenya sont des femmes d'abord. Ce sont celles qui l'ont affrontée, notamment une coureuse qui a fini quatrième aux Jeux Olympiques, qui était au pied du podium et qui a refusé à la fin de la course, si vous vous souvenez des images, de l'embrasser, qui a refusé en fait l'étreinte qu'elle lui proposait. Elle l'avait fait avec les autres concurrentes qui étaient sur le podium. Je pense que c'est un sujet qui existe depuis de longues années, puisqu'on a pas mal de cas, alors après il y a plein de catégories un peu différentes ou de cas différents, mais on a eu des sportifs ou des sportifs qui, parfois présentaient des taux de testostérone assez importants et qui participaient à des compétitions où, d'autres concurrents ou d'autres concurrentes, se plaignaient, que ça fausse, la compétition. Après, le problème qu'on a là, en l'espèce, et ça tombe encore sur la Fédération internationale d'athlétisme, qui avait déjà eu, maille à partir avec un athlète qui avait été doublement amputé des jambes.
Oscar Pistorius. Lui aussi sud-africain.
Et qui voulait concourir en tant qu'athlète handisport avec les athlètes sportifs. C'est extrêmement complexe comme question. Je pense que c'est difficile d'avoir une opinion absolument définitive parce que ça fait rentrer un certain nombre d'éléments en compte. On peut pas nier aujourd'hui que le fait qu'elles produisent plus de testostérone permettent une amélioration de ses performances, et en même temps, oui, qui sommes-nous pour pouvoir demander à une athlète de prendre des produits pour baisser attaquer entre guillemets sa féminité.
Mais c'est pas juste les produits, c'est aussi se faire réduire chirurgicalement le clitoris.
Bien sûr.
On est là de l'ordre des mutilations génitales, on pose jamais la question à Michael Phelps. Tous les grands champions avaient des prédispositions biologiques absolument hallucinantes. Et ce questionnement, il revient sans arrêt pour toutes les femmes qui sont des championnes et qui viennent remettre en cause un petit peu et puis s'approcher progressivement des records des hommes. C'est ça, en fait, qui dérange les gens.
Là, c'est pas, honnêtement, je pense sur le cas de Semenya, c'est pas des hommes qui ont décidé de changer.
Ah bon? Parce qu'à la FIA, c'est pas des hommes qui ont abaissé le taux de testostérone.
C'est des hommes médecins au CIO partout.
Je rappelle juste qu'au début, la polémique, elle vient d'athlètes qui courent avec elle. Ce sont des athlètes qui sont des femmes.
Oui, mais vous savez bien, dans un système de domination, le principal moteur...
Les instances de décision...
Non, mais j'entends bien. Je dis juste que ça n'est pas, c'est une affaire qui a été portée. Je veux dire, Semenya, le sujet Semenya, il n'existe pas depuis 2 ans. Il existe depuis un certain nombre d'années auprès, entre guillemets, des athlètes qui participent aux mêmes compétitions qu'elle. Je veux dire, voilà. Après, je ne dis pas que la décision qui a été prise n'est pas une décision qui est moralement attaquable. Je dis pas ça. Je dis juste que voilà, aujourd'hui, cette question-là du genre, voilà, elle se pose quand même globalement, voilà, aujourd'hui, dans pas mal d'institutions.
Catherine Nouveau.
Oui, elle se pose que pour les femmes. Voilà. Déjà, discrimination au sens de la loi. Il y a une loi anti-discrimination. Il y a une réelle discrimination, puisque seules les femmes sont soupçonnées de ne pas être de vraies femmes à partir du moment où elles produisent certaines performances. Cette affaire, elle dure depuis 10 ans pour Semenya, mais elle dure depuis 60 ans, en fait, dans le sport international. C'est-à-dire, à partir du moment où on a eu des femmes très performantes, la question est venue, et si c'était des hommes déguisés en femmes? On n'en a trouvé aucun en 50 ans. Et si c'était... Et elles ne sont pas de vraies femmes. Alors... Mais vous vous rendez compte, non seulement la discrimination, mais l'humiliation, ça a commencé par des tests gynécologiques. C'est quoi une vraie femme? Eh bien, beaucoup de médecins, gynécologues, généticiens, etc. interrogés sont dans l'incapacité de dire comment ça se définit. Il y a les chromosomes, il y a les hormones, il y a l'anatomie, il y a la physiologie, le sexe psychologique, le sexe social. Bon, voilà. Et donc, le mouvement sportif, le Comité international olympique, Fédération d'athlétisme, n'ont eu de cesse que de vouloir mettre des normes à la féminité des sportives. Quand elles sont devenues performantes, dites trop performantes, alors on aurait dû les soupçonner de quoi? Comme les hommes? De dopage. C'est pas ça qu'on fait. On les soupçonne sur leur identité. Donc, fondamentalement, c'est discriminatoire de ne pas être de vraies femmes. Vous voyez un peu la blessure qu'Esther Semenya a été soumise à la vindicte des médias, etc. Donc, elle a un avantage naturel, et moi je comprends, nous la soutenons et nous sommes assez nombreux à la soutenir. Ce sont des avantages naturels. Usain Bolt et d'autres sportifs dont on a parlé en ont assez aussi, et ça n'a pas du tout posé de problème à qui que ce soit.
Pour quelle raison, Mélissa Plaza, les sportives ne se révoltent pas davantage de manière collective face à ces discriminations?
J'allais l'aborder juste avant, mais vous savez, dans tous les systèmes de domination, pour faire maintenir ce système-là, le meilleur moyen, c'est de diviser les opprimés. C'est exactement ce qui se passe avec le cas de Caster Semenya, puisque vous dites que ce sont les athlètes femmes qui se sont plaintes.
C'est pas qu'un système de domination, c'est-à-dire ce que vous racontez sur la concurrence qui peut exister avec vos coéquipières dans certains des clubs dans lesquels vous avez évolué, c'est quelque chose d'extrêmement rude. C'est-à-dire, c'est pas forcément non plus. D'ailleurs, le sport et le sport de haut niveau, c'est de la compétition, c'est de la concurrence, donc. Tout ce qui est de l'ordre du collectif est peut-être un petit peu compliqué à mener.
Je ne crois pas que ce soit lié au sexe, en fait. Je pense que dans le monde du haut niveau, la compétition est rude et que gagner sa place sur le terrain passe par forcément écraser les autres. C'est pas lié au fait qu'on soit des femmes. Ce que je regrettais, moi, dans le milieu précisément footballistique, c'était effectivement ce manque de sororité. C'est-à-dire que... on aurait dû avoir beaucoup plus et on aurait dû se serrer les coudes ensemble pour aller chercher ce qu'on nous devait. Ce qu'on n'a pas toujours fait, aujourd'hui je ne les blâme pas, ces joueuses. Je sais juste que dans un tel système de domination, on n'est pas en mesure d'aller chercher ça. Parce que c'est l'omerta, en fait, clairement.
Jérôme Casadio, juste un mot pour terminer. La prochaine une de l'équipe avec une femme.
Samedi, voilà, la présentation de la finale de Ligue des Champions avec Lyon qui affronte Barcelone. Et si elles sont championnes, bien évidemment, elles auront également le privilège de la une le dimanche.
Eh ben, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Donc, Jérôme Casadio, je rappelle, directeur de la rédaction de l'équipe. Catherine Louveau, vous êtes sociologue du sport. On renvoie de vos différentes publications sur notre site internet franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Et Mélissa Plaza, Pas pour les filles, vous y racontez votre histoire. C'est un ouvrage qui vient d'être publié chez Robert Laffont. Merci à toute l'équipe du Grain, équipe mixte. Virginie Leduo, Antoine Dulster, Amélie Perrault, Cyril Marchand, Fanny Richet, mission réalisée par Peyre Le Gras, avec à la prise de son Ontuac Lopez. Dans un instant, ce sera la dispute avec Arnaud Laporte, n'est-ce pas, Arnaud ?
Absolument, que des femmes critiques, pas fait exprès, mais c'est souvent le cas dans la dispute, ça c'est fait exprès. Demain, la question du Grain à Moudre avec Arlette.
Faut-il mieux encadrer l'arrêt des soins ?
D'accord, on sera à l'écoute à 18h20, merci. Les 19h, vous écoutez France Culture, les titres de l'actualité avec Jade Péchira.